La Chartreuse de Parme, livre 2, chapitre 18. Ainsi, avec un dévouement complet pour le prisonnier, la duchesse et le premier ministre n'avaient pu faire pour lui que bien peu de choses. Le prince était en colère. La cour ainsi que le public étaient piqués contre Fabrice et ravis de lui voir arriver malheur. Il avait été trop heureux. Malgré l'or jeté à pleine main, la duchesse n'avait pu faire un pas dans le siège de la citadelle. Il ne se passait pas de jour sans que la marquise Raversi ou le chevalier Riscara eussent quelque nouvel avis à communiquer au général Fabio Conti. On soutenait sa faiblesse. Comme nous l'avons dit, le jour de son emprisonnement, Fabrice fut conduit d'abord au palais du gouverneur. C'est un joli petit bâtiment construit dans le siècle dernier sur les dessins de Van Vitelli, qui le plaça à 180 pieds de haut sur la plateforme de l'immense tour ronde. Des fenêtres de ce petit palais, isolées sur le dos de l'énorme tour comme la bosse d'un chameau, Fabrice découvrait la campagne et les Alpes fort au loin. Il suivait de l'œil, au pied de la citadelle, le cours de la Parma, sorte de torrent qui, tournant à gauche à 4 lieues de la ville, va se jeter dans le Pô. Par-delà la rive gauche de ce fleuve, qui formait comme une suite d'immenses taches blanches au milieu des campagnes verdoyantes, son œil ravi apercevait distinctement chacun des sommets de l'immense mur que les Alpes forment au nord de l'Italie. Ces sommets, toujours couverts de neige, même au mois d'août où l'on était alors, donnent comme une sorte de fraîcheur par souvenir au milieu de ces campagnes brûlantes. L'œil en peut suivre les moindres détails, et pourtant ils sont à plus de 30 lieues de la citadelle de Parme. La vue si étendue du joli palais du gouverneur est interceptée vers un angle au midi par la tour Farnèse, dans laquelle on préparait à la hâte une chambre pour Fabrice. Cette seconde tour, comme le lecteur s'en souvient peut-être, fut élevée sur la plateforme de la grosse tour en l'honneur d'un prince héréditaire qui, fort différent de l'Hippolyte, fils de Thésée, n'avait point repoussé les politesses d'une jeune belle-mère. La princesse mourut en quelques heures, le fils du prince ne recouvra sa liberté que 17 ans plus tard, en montant sur le trône à la mort de son père. Cette tour Farnèse, où, après 3/4 d'heure, l'on fit monter Fabrice, fort laide à l'extérieur, est élevée d'une 50aine de pieds au-dessus de la plateforme de la grosse tour et garnie d'une quantité de paratonnerres. Le prince, mécontent de sa femme, qui fit bâtir cette prison aperçue de toutes parts, eut la singulière prétention de persuader à ses sujets qu'elle existait depuis de longues années. C'est pourquoi il lui imposa le nom de Tour Farnèse. Il était défendu de parler de cette construction. Et de toutes les parties de la ville de Parme et des plaines voisines, on voyait parfaitement les maçons placer chacune des pierres qui composent cet édifice pentagone. Afin de prouver qu'elle était ancienne, on plaça au-dessus de la porte de 2 pieds de large et de 4 de hauteur, par laquelle on y entre, un magnifique bas-relief qui représente Alexandre Farnèse, le général célèbre, forçant Henri IV à s'éloigner de Paris. Cette tour Farnèse, placée en si belle vue, se compose d'un rez-de-chaussée long de 40 pas au moins, large à proportion et tout rempli de colonnes fort trapues. Car cette pièce, si démesurément vaste, n'a pas plus de 15 pieds d'élévation. Elle est occupée par le corps de garde et, du centre, l'escalier s'élève en tournant autour d'une des colonnes. C'est un petit escalier en fer, fort léger, large de 2 pieds à peine et construit en filigrane. Par cet escalier tremblant sous le poids des geôliers qui l'escortaient, Fabrice arriva à de vastes pièces de plus de 20 pieds de haut, formant un magnifique premier étage. Elles furent jadis meublées avec le plus grand luxe pour le jeune prince qui y passa les 17 plus belles années de sa vie. À l'une des extrémités de cet appartement, on fit voir au nouveau prisonnier une chapelle de la plus grande magnificence. Les murs et la voûte sont entièrement revêtus de marbre noir. Des colonnes noires aussi, et de la plus noble proportion, sont placées en ligne le long des murs noirs, sans les toucher, et ces murs sont ornés d'une quantité de têtes de mort en marbre blanc, de proportions colossales, également sculptées et placées sur deux os en sautoir. Voilà bien une invention de la haine qui ne peut tuer, se dit Fabrice. Et quel diable d'idée de me montrer cela! Un escalier de fer, et en filigrane fort léger, également disposé autour d'une colonne, donne accès au second étage de cette prison. Et c'est dans les chambres de ce second étage, hautes de 15 pieds environ, que depuis un an le général Fabio Conti faisait preuve de génie. D'abord, sous sa direction, l'on avait solidement grillé les fenêtres de ces chambres, jadis occupées par les domestiques du prince, et qui sont à plus de 30 pieds des dalles de pierre formant la plateforme de la grosse tour ronde. C'est par un corridor obscur, placé au centre du bâtiment, que l'on arrive à ces chambres, qui toutes ont 2 fenêtres. Et dans ce corridor fort étroit, Fabrice remarqua 3 portes de fer successives, formées de barreaux énormes et s'élevant jusqu'à la voûte. Ce sont les plans, coupes et élévations de toutes ces belles inventions, qui pendant 2 ans avaient valu au général une audience de son maître chaque semaine. Un conspirateur placé dans l'une de ces chambres ne pourrait pas se plaindre à l'opinion d'être traité d'une façon inhumaine, et pourtant ne saurait avoir de communication avec personne au monde, ni faire un mouvement sans qu'on l'entendît. Le général avait fait placer dans chaque chambre de gros madriers de chêne, formant comme des bancs de 3 pieds de haut. Et c'était là son invention capitale, celle qui lui donnait des droits au ministère de la police. Sur ces bancs, il avait fait établir une cabane en planches fort sonore, haute de 10 pieds, et qui ne touchait au mur que du côté des fenêtres. Des 3 autres côtés, il régnait un petit corridor de 4 pieds de large, entre le mur primitif de la prison, composé d'énormes pierres de taille, et les parois en planches de la cabane. Ces parois, formées de 4 doubles de planches de noyer, chêne et sapin, étaient solidement reliés par des boulons de fer et par des clous sans nombre. Ce fut dans l'une de ces chambres, construites depuis 1 an, et chef-d'œuvre du général Fabio Conti, laquelle avait reçu le beau nom d'obéissance passive, que Fabrice fut introduit. Il courut aux fenêtres. La vue qu'on avait de ces fenêtres grillées était sublime. Un seul petit coin de l'horizon était caché, vers le nord-ouest, par le toit en galerie du joli palais du gouverneur, qui n'avait que 2 étages. Le rez-de-chaussée était occupé par les bureaux de l'état-major. Et d'abord, les yeux de Fabrice furent attirés vers une des fenêtres du second étage, où se trouvait, dans de jolies cages, une grande quantité d'oiseaux de toutes sortes. Fabrice s'amusait à les entendre chanter et à les voir saluer les derniers rayons du crépuscule du soir, tandis que les geôliers s'agitaient autour de lui. Cette fenêtre de la volière n'était pas à plus de 25 pieds de l'une des siennes et se trouvait à 5 ou 6 pieds en contrebas, de façon qu'il plongeait sur les oiseaux. Il y avait lune ce jour-là, et au moment où Fabrice entrait dans sa prison, elle se levait majestueusement à l'horizon à droite, au-dessus de la chaîne des Alpes, vers Trévise. Il n'était que 8h30 du soir, et à l'autre extrémité de l'horizon, au couchant, un brillant crépuscule rouge-orangé dessinait parfaitement les contours du mont Viso et des autres pics des Alpes qui remonte de Nice vers le Mont-Cenis et Turin. Sans songer autrement à son malheur, Fabrice fut ému et ravi par ce spectacle sublime. C'est donc dans ce monde ravissant que vit Clélia Conti. Avec son âme pensive et sérieuse, elle doit jouir de cette vue plus qu'un autre. On est ici comme dans des montagnes solitaires, à 100 lieues de Parme. Ce ne fut qu'après avoir passé plus de 2 heures à la fenêtre, admirant cet horizon qui parlait à son âme, et souvent aussi arrêtant sa vue sur le joli palais du gouverneur, que Fabrice s'écria tout à coup « Mais ceci est-il une prison ? Est-ce là ce que j'ai tant redouté ? Au lieu d'apercevoir à chaque pas des désagréments et des motifs d'aigreur, notre héros se laissait charmer par les douceurs de la prison. Tout à coup, son attention fut violemment rappelée à la réalité par un tapage épouvantable. Sa chambre de bois, assez semblable à une cage et surtout fort sonore, était violemment ébranlée. Des aboiements de chiens et de petits cris aigus complétaient le bruit le plus singulier. « Quoi donc ? Sitôt pourrais-je m'échapper ?» pensa Fabrice. Un instant après, il riait, comme jamais peut-être on a ri dans une prison. Par ordre du général, on avait fait monter en même temps que les geôliers un chien anglais, fort méchant, préposé à la garde des prisonniers d'importance, et qui devait passer la nuit dans l'espace si ingénieusement ménagé tout autour de Fabrice. Le chien et le geôlier devaient coucher dans l'intervalle de 3 pieds, ménagé entre les dalles de pierre du sol primitif de la chambre et le plancher de bois, sur lequel le prisonnier ne pouvait faire un pas sans être entendu. Or, à l'arrivée de Fabrice, la chambre de l'obéissance passive se trouvait occupée par une centaine de rats énormes qui prirent la fuite dans tous les sens. Le chien, sorte d'épagneul croisé avec un fox anglais, n'était point beau. Mais en revanche, il se montra fort alerte. On l'avait attaché sur le pavé en dalles de pierre au-dessous du plancher de la chambre de bois. Mais lorsqu'il sentit passer les rats tout près de lui, il fit des efforts si extraordinaires qu'il parvint à retirer la tête de son collier. Alors advint cette bataille admirable et dont le tapage réveilla Fabrice, lancé dans les rêveries les moins tristes. Les rats qui avaient pu se sauver du premier coup de dent, se réfugiant dans la chambre de bois, le chien monta après eux les 6 marches qui conduisaient du pavé en pierre à la cabane de Fabrice. Alors commença un tapage bien autrement épouvantable. La cabane était ébranlée jusqu'en ses fondements. Fabrice riait comme un fou et pleurait à force de rire. Le geôlier Griot, non moins riant, avait fermé la porte. Le chien, courant après les rats, n'était gêné par aucun meuble, car la chambre était absolument nue. Il n'y avait pour gêner les bonds du chien chasseur qu'un poil de fer dans un coin. Quand le chien eut triomphé de tous ses ennemis, Fabrice l'appela, le caressa, réussit à lui plaire. « Si jamais celui-ci me voit sautant par-dessus quelques murs, se dit-il, il n'aboiera pas. » Mais cette politique raffinée était une prétention de sa part. Dans la situation d'esprit où il était, il trouvait son bonheur à jouer avec ce chien. Par une bizarrerie à laquelle il ne réfléchissait point, une secrète joie régnait au fond de son âme. Après qu'il se fut bien essoufflé à courir avec le chien, « Comment vous appelez-vous ? » dit Fabrice au geôlier. « Griot, pour servir votre excellence dans tout ce qui est permis par le règlement. » « Eh bien, mon cher Griot, un nommé Giletti a voulu m'assassiner au milieu d'un grand chemin. Je me suis défendu et je l'ai tué. Je le tuerais encore si c'était à faire. Mais je n'en veux pas moins mener joyeusement, tant que je serai votre hôte. Sollicitez l'autorisation de vos chefs et allez demander du linge au palais San Severina. De plus, achetez-moi force Nebbiodasti. c'est un assez bon vin mousseux qu'on fabrique en Piémont, dans la patrie d'Alfieri, et qui est fort estimé surtout de la classe d'amateurs à laquelle appartiennent les geôliers. 8 ou 10 de ces messieurs étaient occupés à transporter dans la chambre de bois de Fabrice quelques meubles antiques et fort dorés que l'on enlevait au premier étage dans l'appartement du prince. Tous recueillirent religieusement dans leurs pensées le mot en faveur du vin d'Asti. Quoi qu'on pût faire, l'établissement de Fabrice pour cette première nuit fut pitoyable. Mais il n'eut l'air choqué que de l'absence d'une bouteille de bon nez bieux. « Celui-là a l'air d'un bon enfant, » dirent les geôliers en s'en allant. « Et il n'y a qu'une chose à désirer, c'est que nos messieurs lui laissent passer de l'argent. » Quand il fut seul et un peu remis de tout ce tapage, « Est-il possible que ce soit là la prison ?» se dit Fabrice en regardant cet immense horizon de Trévise au Mont Viseau. La chaîne s'y étendue des Alpes, les pics couverts de neige, les étoiles, etc. Et une première nuit en prison encore. Je conçois que Clelia Conti se plaise dans cette solitude aérienne. On est ici à 1000 lieues au-dessus des petitesses et des méchancetés qui nous occupent là-bas. Si ces oiseaux qui sont là sous ma fenêtre lui appartiennent, je la verrai. Rougira-t-elle en m'apercevant ? Ce fut en discutant cette grande question que le prisonnier trouva le sommeil à une heure fort avancée de la nuit. Dès le lendemain de cette nuit, la première passée en prison, et durant laquelle il ne s'impatienta pas une seule fois, Fabrice fut réduit à faire la conversation avec Fox, le chien anglais. Griot, le geôlier, lui faisait bien toujours des yeux fort aimables, mais un ordre nouveau le rendait muet, et il n'apportait ni linge ni nébieux. « Verrai-je Clélia ?» se dit Fabrice en s'éveillant. « Mais ces oiseaux, sont-ils à elle ?» Les oiseaux commençaient à jeter des petits cris et à chanter, et à cette élévation, c'était le seul bruit qui s'entendit dans les airs. Ce fut une sensation pleine de nouveauté et de plaisir pour Fabrice, que ce vaste silence qui régnait à cette hauteur. Il écoutait avec ravissement les petits gazouillements interrompus et si vifs par lesquels ses voisins les oiseaux saluaient le jour. S'ils lui appartiennent, elle paraîtra un instant dans cette chambre, là, sous ma fenêtre. Et tout en examinant les immenses chaînes des Alpes, vis-à-vis le premier étage desquels la citadelle de Parme semblait s'élever comme un ouvrage avancé, ses regards revenaient à chaque instant aux magnifiques cages de citronniers et de bois d'acajou, qui, garnies de fils dorés, s'élevaient au milieu de la chambre fort claire, servant de volière. Ce que Fabrice n'apprit que plus tard, c'est que cette chambre était la seule du second étage du palais qui eut de l'ombre de 11 à 4. Elle était abritée par la tour Farnèse. « Quel ne va pas être mon chagrin, » se dit Fabrice, « si au lieu de cette physionomie céleste et pensive que j'attends, et qui rougira peut-être un peu si elle m'aperçoit, je vois arriver la grosse figure de quelque femme de chambre bien commune, chargée par procuration de soigner les oiseaux. Mais si je vois Clélia, daignera-t-elle m'apercevoir ? Ma foi, il faut faire des indiscrétions pour être remarquée. Ma situation doit avoir quelques privilèges. D'ailleurs, nous sommes tous deux seuls ici et si loin du monde. Je suis un prisonnier, apparemment ce que le général Conti et les autres misérables de cette espèce appellent un de leurs subordonnés. Mais elle a tant d'esprit, ou pour mieux dire tant d'âme, comme le suppose le comte, que peut-être à ce qu'il dit, méprise-t-elle le métier de son père. De là viendrait sa mélancolie. Noble cause de tristesse. Mais après tout, je ne suis point précisément un étranger pour elle. Avec quelle grâce pleine de modestie elle m'a saluée hier soir. Je me souviens fort bien que lors de notre rencontre près de Côme, je lui dis « Un jour je viendrai voir vos beaux tableaux de Parme. Vous souviendrez-vous de ce nom ? Fabrice Del Dongo. L'aura-t-elle oublié ? Elle était si jeune alors. Mais à propos, se dit Fabrice étonné en interrompant tout à coup le cours de ses pensées. J'oublie d'être en colère. Serais-je un de ces grands courages comme l'Antiquité en a montré quelques exemples au monde ? Suis-je un héros sans m'en douter ? Comment ? Moi qui avais tant de peur de la prison, j'y suis, et je me souviens pas d'être triste. C'est bien le cas de dire que la peur a été 100 fois pire que le mal. Quoi ? J'ai besoin de me raisonner pour être affligé de cette prison, qui, comme le dit Blanès, peut durer 10 ans comme 10 mois. Serait-ce l'étonnement de tout ce nouvel établissement qui me distrait de la peine que je devrais éprouver ? Peut-être que cette bonne humeur indépendante de ma volonté et peu raisonnable cessera tout à coup. Peut-être en un instant je tomberai dans le noir malheur que je devrais éprouver. Dans tous les cas, il est bien étonnant d'être en prison et de devoir se raisonner pour être triste. Ma foi, j'en reviens à ma supposition. Peut-être que j'ai un grand caractère. Les rêveries de Fabrice furent interrompues par le menuisier de la citadelle, lequel venait prendre mesure d'abat-jour pour ses fenêtres. C'était la première fois que cette prison servait, et l'on avait oublié de la compléter en cette partie essentielle. Ainsi, se dit Fabrice, je vais être privé de cette vue sublime. Et il cherchait à s'attrister de cette privation. Mais quoi ? S'écria-t-il tout à coup, parlant au menuisier. « Je ne verrai plus ces jolis oiseaux ?»« Ah, les oiseaux de mademoiselle, qu'elle aime tant !» dit cet homme avec l'air de la bonté. « Cachés, éclipsés, anéantis comme tout le reste !» Parler était défendu au menuisier, tout aussi strictement qu'au geôlier. Mais cet homme avait pitié de la jeunesse du prisonnier. Il lui apprit que ces abat-jours énormes, placés sur l'appui des deux fenêtres et s'éloignant du mur tout en s'élevant, ne devaient laisser aux détenus que la vue du ciel. « On fait cela pour la morale, lui dit-il, afin d'augmenter une tristesse salutaire et l'envie de se corriger dans l'âme des prisonniers. « Le général, ajouta le menuisier, a aussi inventé de leur retirer les vitres et de les faire remplacer à leurs fenêtres par du papier huilé. » Fabrice aima beaucoup le tour épigrammatique de cette conversation, fort rare en Italie. « Je voudrais bien avoir un oiseau pour me désennuyer. Je les aime à la folie. Achetez-moi un de la femme de chambre de mademoiselle Clélia Conti. »« Quoi ? Vous la connaissez ? » s'écria le menuisier, « que vous dites si bien son nom ?» Qui n'a pas ouï parler de cette beauté si célèbre ? Mais j'ai eu l'honneur de la rencontrer plusieurs fois à la cour. La pauvre demoiselle s'ennuie bien ici, ajouta le menuisier. Elle passe sa vie là avec ses oiseaux. Ce matin, elle vient de faire acheter de beaux orangers que l'on a placés par son ordre à la porte de la tour sous votre fenêtre. Sans la corniche, vous pourriez les voir. Il y avait dans cette réponse des mots bien précieux pour Fabrice. Il trouva une façon obligeante de donner quelque argent au menuisier. « J'ai fait 2 fautes à la fois, lui dit cet homme. Je parle à votre Excellence et je reçois de l'argent. Après-demain, en revenant pour les abat-jours, j'aurai un oiseau dans ma poche. Et si je ne suis pas seul, je ferai semblant de le laisser envoler. Si je puis même, je vous apporterai un livre de prières. Vous devez bien souffrir de ne pas pouvoir dire vos offices. » Ainsi, se dit Fabrice, dès qu'il fut seul, « ces oiseaux sont à elle. Mais dans 2 jours, je ne les verrai plus. » À cette pensée, ses regards prirent une teinte de malheur. Mais enfin, à son inexprimable joie, après une si longue attente et tant de regards, vers midi, Clélia vint soigner ses oiseaux. Fabrice resta immobile et sans respiration. Il était debout contre les énormes barreaux de sa fenêtre et fort près. Il remarqua qu'elle ne levait pas les yeux sur lui. mais ses mouvements avaient l'air gênés, comme ceux de quelqu'un qui se sent regardé. Quand elle l'aurait voulu, la pauvre fille n'aurait pas pu oublier le sourire si fin qu'elle avait vu errer sur les lèvres du prisonnier la veille, au moment où les gendarmes l'emmenaient du corps de garde. Quoique, suivant toute apparence, elle veilla sur ses actions avec le plus grand soin, au moment où elle s'approcha de la fenêtre de la volière, elle rougit fort sensiblement. La première pensée de Fabrice, collée contre les barreaux de fer de sa fenêtre, fut de se livrer à l'enfantillage de frapper un peu avec la main sur ses barreaux, ce qui produirait un petit bruit. Puis, la seule idée de ce manque de délicatesse lui fit horreur. Je mériterais que pendant 8 jours elle envoyât soigner ses oiseaux par sa femme de chambre. Cette idée délicate ne lui fut point venue à Naples ou à Novare. Il la suivait ardemment des yeux. Certainement, se disait-il, elle va s'en aller sans daigner jeter un regard sur cette pauvre fenêtre, et pourtant elle est bien en face. Mais, en revenant du fond de la chambre que Fabrice, grâce à sa position plus élevée, apercevait fort bien, Clélia ne put s'empêcher de le regarder du haut de l'œil, tout en marchant, et s'en fut assez pour que Fabrice se crût autorisé à la saluer. « Ne sommes-nous pas seuls au monde ici ?» se dit-il pour s'en donner le courage. Sur ce salut, la jeune fille resta immobile et baissa les yeux. Puis Fabrice les lui vit relever fort lentement, et évidemment, en faisant effort sur elle-même, elle salua le prisonnier, avec le mouvement le plus grave et le plus distant. Mais elle ne put imposer silence à ses yeux. Sans qu'elle le sût probablement, ils exprimèrent un instant la pitié la plus vive. Fabrice remarqua qu'elle rougissait tellement que la teinte rose s'étendait rapidement jusque sur le haut des épaules, dont la chaleur venait d'éloigner, en arrivant à la volière, un châle de dentelle noire. Le regard involontaire par lequel Fabrice répondit à son salut redoubla le trouble de la jeune fille. Que cette pauvre femme serait heureuse, se disait-elle en pensant à la duchesse, si un instant seulement elle pouvait le voir comme je le vois. Fabrice avait eu quelque léger espoir de la saluer de nouveau à son départ. Mais, pour éviter cette nouvelle politesse, Clélia fit une savante retraite par échelons, de cage en cage, comme si, en finissant, elle eût dû soigner les oiseaux placés le plus près de la porte. Elle sortit enfin. Fabrice restait immobile à regarder la porte par laquelle elle venait de disparaître. Il était un autre homme. Dès ce moment, l'unique objet de ses pensées fut de savoir comment il pourrait parvenir à continuer de la voir. Même quand on aurait posé cet horrible abat-jour devant la fenêtre qui donnait sur le palais du gouverneur. La veille au soir, avant de se coucher, il s'était imposé l'ennui fort long de cacher la meilleure partie de l'or qu'il avait dans plusieurs des trous de rats qui ornaient sa chambre de bois. « Il faut, ce soir, que je cache ma montre. N'ai-je pas entendu dire qu'avec de la patience et un ressort de montre ébréché, on peut couper le bois et même le fer? Je pourrais donc scier cet abat-jour. » Ce travail de cacher la montre, qui dura 2 grandes heures, ne lui sembla point long. Il songeait aux différents moyens de parvenir à son but et à ce qu'il savait faire en travaux de menuiserie. « Si je sais m'y prendre, se disait-il, je pourrais couper bien carrément un compartiment de la planche de chêne qui formera l'abat-jour, vers la partie qui reposera sur l'appui de la fenêtre. J'ôterai et je remettrai ce morceau suivant les circonstances. » Je donnerai tout ce que je possède à Griot afin qu'il veuille bien ne pas s'apercevoir de ce petit manège. Tout le bonheur de Fabrice était désormais attaché à la possibilité d'exécuter ce travail, et il ne songeait à rien d'autre. Si je parviens seulement à la voir, je suis heureux. Non pas, se dit-il, il faut aussi qu'elle voie que je la vois. Pendant toute la nuit, il eut la tête remplie d'inventions de menuiserie, et ne songea peut-être pas une seule fois à la cour de Parme, à la colère du prince, etc., etc. Nous avouerons qu'il ne songea pas davantage à la douleur dans laquelle la duchesse devait être plongée. Il attendait avec impatience le lendemain. Mais le menuisier ne reparut plus. Apparemment qu'il passait pour libéral dans la prison. On eut besoin d'en envoyer un autre à mine rébarbative, lequel ne répondit jamais que par un grognement de mauvais augure à toutes les choses agréables que l'esprit de Fabrice cherchait à lui adresser. Quelques-unes des nombreuses tentatives de la duchesse pour lier une correspondance avec Fabrice avaient été dépistées par les nombreux agents de la marquise Raversi. Et, par elle, le général Fabio Conti était journellement averti, effrayé, piqué d'amour-propre. Toutes les 8 heures, 6 soldats de garde se relevaient dans la grande salle aux 100 colonnes du rez-de-chaussée. De plus, le gouverneur établit un geôlier de garde à chacune des 3 portes de fer successives du corridor. Et le pauvre Griot, le seul qui vit le prisonnier, fut condamné à ne sortir de la tour Farnèse que tous les 8 jours, ce dont il se montra fort contrarié. Il fit sentir son humeur à Fabrice, qui eut le bon esprit de ne répondre que par ces mots « Force nebbio d'asti, mon ami ». Et il lui donna de l'argent. « Eh bien, même cela, qui nous console de tous les maux, s'écria Griot indigné, d'une voix à peine assez élevée pour être entendue du prisonnier, on nous défend de le recevoir et je devrais le refuser, mais je le prends. Du reste, argent perdu, je ne puis rien vous dire sur rien. Allez, il faut que vous soyez joliment coupable. Toute la citadelle est sans dessus dessous à cause de vous. Les belles menées de madame la duchesse ont déjà fait renvoyer 3 d'entre nous. » L'abat-jour sera-t-il prêt avant midi ? Telle fut la grande question qui fit battre le cœur de Fabrice pendant toute cette longue matinée. Il comptait tous les quarts d'heure qui sonnaient à l'horloge de la citadelle. Enfin, comme les 3 quarts après 11 heures sonnaient, l'abat-jour n'était pas encore arrivé. Clélia reparut, donnant des soins à ses oiseaux. La cruelle nécessité avait fait faire de si grands pas à l'audace de Fabrice, et le danger de ne plus la voir lui semblait tellement au-dessus de tout qu'il osa, en regardant Clélia, faire avec le doigt le geste de scier l'abat-jour. Il est vrai qu'aussitôt après avoir aperçu ce geste si séditieux en prison, elle salua à demi et se retira. « Eh quoi ? » se dit Fabrice étonné. Serait-elle assez déraisonnable pour voir une familiarité ridicule dans un geste dicté par la plus impérieuse nécessité ? Je voulais la prier de daigner toujours en soignant ses oiseaux, regarder quelquefois la fenêtre de la prison, même quand elle la trouvera masquée par un énorme volet de bois. Je voulais lui indiquer que je ferai tout ce qui est humainement possible pour parvenir à la voir. Grand Dieu ! Est-ce qu'elle ne viendra pas demain à cause de ce geste indiscret ? Cette crainte qui troubla le sommeil de Fabrice se vérifia complètement. Le lendemain, Clélia n'avait pas paru à 3 heures, quand on acheva de poser devant les fenêtres de Fabrice les 2 énormes abat-jours. Les diverses pièces en avaient été élevées à partir de l'esplanade de la grosse tour, au moyen de cordes et de poulies attachés par dehors aux barreaux de fer des fenêtres. Il est vrai que, cachée derrière une persienne de son appartement, Clélia avait suivi avec angoisse tous les mouvements des ouvriers. Elle avait fort bien vu la mortelle inquiétude de Fabrice, mais n'en avait pas moins eu le courage de tenir la promesse qu'elle s'était faite. Clélia était une petite sectaire de libéralisme. Dans sa première jeunesse, elle avait pris au sérieux tous les propos de libéralisme qu'elle entendait dans la société de son père, lequel ne songeait qu'à se faire une position. Elle était partie de là pour prendre en mépris et presque en horreur le caractère flexible du courtisan. De là son antipathie pour le mariage. Depuis l'arrivée de Fabrice, elle était bourrelée de remords. « Voilà, se disait-elle, que mon indigne cœur se met du parti des gens qui veulent trahir mon père. Il ose me faire le geste de scier une porte. Mais, se dit-elle aussitôt, l'âme navrée, toute la ville parle de sa mort prochaine, demain peut-être le jour fatal. Avec les monstres qui nous gouvernent, quelle chose au monde n'est pas possible. Quelle douceur, quelle sérénité héroïque dans ses yeux qui peut-être vont se fermer. Dieu, quelles ne doivent pas être les angoisses de la duchesse. Aussi, on l'a dit tout à fait au désespoir. Moi, j'irai poignarder le prince comme l'héroïque Charlotte Corday. Pendant toute cette troisième journée de sa prison, Fabrice fut outré de colère, mais uniquement de ne pas avoir vu reparaître Clélia. Colère pour colère, j'aurais dû lui dire que je l'aimais, s'écria-t-il, car il en était arrivé à cette découverte. Non, ce n'est point par grandeur d'âme que je ne songe pas à la prison et que je fais mentir la prophétie de Blanès. Tant d'honneur ne m'appartient point. Malgré moi, je songe à ce regard de douce pitié que Clélia laissa tomber sur moi lorsque les gendarmes m'emmenaient du corps de garde. Ce regard a effacé toute ma vie passée. Qui m'eût dit que je trouverais des yeux si doux en un tel lieu? Et au moment où j'avais les regards salis par la physionomie de Barbone et par celle de monsieur le général gouverneur. Le ciel parut au milieu de ces êtres vils. Et comment faire pour ne pas aimer la beauté et chercher à la revoir? Non, ce n'est point par grandeur d'âme que je suis indifférent à toutes les petites vexations dont la prison m'accable. L'imagination de Fabrice, parcourant rapidement toutes les possibilités, arriva à celle d'être mise en liberté. Sans doute l'amitié de la duchesse fera des miracles pour moi. Eh bien, je ne la remercierai de la liberté que du bout des lèvres. Ces lieux ne sont point de ceux où l'on revient. Une fois hors de prison, séparée de société comme nous le sommes, je ne reverrai presque jamais Clélia. Et dans le fait, quel mal me fait la prison? Si Clélia daignait ne pas m'accabler de sa colère, qu'aurais-je à demander au ciel? Le soir de ce jour où il n'avait pas vu sa jolie voisine, il eut une grande idée. Avec la croix de fer du chapelet que l'on distribue à tous les prisonniers à leur entrée en prison, il commença, et avec succès, à percer l'abat-jour. C'est peut-être une imprudence, se dit-il avant de commencer. Les menuisiers n'ont-ils pas dit devant moi que dès demain ils seront remplacés par les ouvriers peintres? Que diront ceux-ci s'ils trouvent l'abat-jour de la fenêtre percée? Mais si je ne commets cette imprudence, demain je ne puis la voir. Quoi? Par ma faute, je resterai un jour sans la voir? Et encore quand elle m'a quitté fâchée? L'imprudence de Fabrice fut récompensée. Après 15 heures de travail, il vit Clélia. Et par excès de bonheur, comme elle ne croyait pas être aperçue de lui, elle resta longtemps immobile et le regard fixé sur cet immense abat-jour. Il eut tout le temps de lire dans ses yeux les signes de la pitié la plus tendre. Sur la fin de la visite, elle négligeait même évidemment les soins à donner à ses oiseaux, pour rester des minutes entières immobile à contempler la fenêtre. Son âme était profondément troublée. Elle songeait à la duchesse, dont l'extrême malheur lui avait inspiré tant de pitié. Et cependant, elle commençait à la haïr. Elle ne comprenait rien à la profonde mélancolie qui s'emparait de son caractère. Elle avait de l'humeur contre elle-même. Deux ou trois fois, pendant le cours de cette visite, Fabrice eut l'impatience de chercher à branler l'abat-jour. Il lui semblait qu'il n'était pas heureux tant qu'il ne pouvait pas témoigner à Clélia qu'il la voyait. Cependant, se disait-il, si elle savait que je l'aperçois avec autant de facilité, timide et réservée comme elle est, sans doute elle se déroberait à mes regards. Il fut bien plus heureux le lendemain. De quelle misère l'amour ne fait-il pas son bonheur? Pendant qu'elle regardait tristement l'immense abat-jour, il parvint à faire passer un petit morceau de fil de fer par l'ouverture que la croix de fer avait pratiquée, et il lui fit des signes qu'elle comprit évidemment, du moins dans ce sens qu'il voulait dire. « Je suis là et je vous vois. » Fabrice eut du malheur les jours suivants. Il voulait enlever à l'abat-jour colossal un morceau de planche grand comme la main, que l'on pourrait remettre à volonté et qui lui permettrait de voir et d'être vu, c'est-à-dire de parler, par signe du moins, de ce qui se passait dans son âme. Mais il se trouva que le bruit de la petite scie fort imparfaite qu'il avait fabriquée avec le ressort de sa montre ébréchée par la croix inquiétait Griot, qui venait passer de longues heures dans sa chambre. Il crut remarquer, il est vrai, que la sévérité de Clélia semblait diminuer à mesure qu'augmentaient les difficultés matérielles qui s'opposaient à toute correspondance. Fabrice observa fort bien qu'elle n'affectait plus de baisser les yeux ou de regarder les oiseaux quand il essayait de lui donner signe de présence à l'aide de son chétif morceau de fil de fer. Il avait le plaisir de voir qu'elle ne manquait jamais à paraître dans la volière au moment précis où 11h15 sonnait, et il eut presque la présomption de se croire la cause de cette exactitude si ponctuelle. Pourquoi ? Cette idée ne semble pas raisonnable, mais l'amour observe des nuances invisibles à l'œil indifférent et en tire des conséquences infinies. Par exemple, depuis que Clélia ne voyait plus le prisonnier, presque immédiatement en entrant dans la volière, elle levait les yeux vers sa fenêtre. C'était dans ces journées funèbres où personne dans Parme ne doutait que Fabrice ne fût bientôt mis à mort. Lui seul l'ignorait. Mais cette affreuse idée ne quittait plus Clélia. Et comment se serait-elle fait des reproches du trop d'intérêt qu'elle portait à Fabrice ? Il allait périr, et pour la cause de la liberté, car il était trop absurde de mettre à mort un Del Dongo pour un coup d'épée à un histrion. Il est vrai que cet aimable jeune homme était attaché à une autre femme. Clélia était profondément malheureuse, et sans s'avouer bien précisément le genre d'intérêt qu'elle prenait à son sort. « Certes, se disait-elle, si on le conduit à la mort, je m'enfuirai dans un couvent, et de la vie je ne reparaîtrai dans cette société de la cour. Elle me fait horreur. Assassin poli !» Le 8e jour de la prison de Fabrice, elle eut un bien grand sujet de honte. Elle regardait fixement et absorbée dans ses tristes pensées l'abat-jour qui cachait la fenêtre du prisonnier. Ce jour-là, il n'avait encore donné aucun signe de présence. Tout à coup, un petit morceau d'abat-jour, plus grand que la main, fut retiré par lui. Il la regarda d'un air gai, et elle vit ses yeux qui la saluaient. Elle ne put soutenir cette épreuve inattendue. Elle se retourna rapidement vers ses oiseaux et se mit à les soigner. Mais elle tremblait au point qu'elle versait l'eau qu'elle leur distribuait, et Fabrice pouvait voir parfaitement son émotion. Elle ne put supporter cette situation et prit le parti de se sauver en courant. Ce moment fut le plus beau de la vie de Fabrice, sans aucune comparaison. Avec quel transport il eût refusé la liberté si on la lui eût offerte en cet instant! Le lendemain fut le jour de grand désespoir de la duchesse. Tout le monde tenait pour sûr dans la ville que c'en était fait de Fabrice. Clélia n'eut pas le triste courage de lui montrer une dureté qui n'était pas dans son cœur. Elle passa 1h30 à la volière, regarda tous ses signes et souvent lui répondit, au moins par l'expression de l'intérêt le plus vif et le plus sincère. Elle le quittait des instants pour lui cacher ses larmes. Sa coquetterie de femme sentait bien vivement l'imperfection du langage employé. Si l'on se fût parlé, de combien de façons différentes n'eût-elle pas pu chercher à deviner quelle était précisément la nature des sentiments que Fabrice avait pour la duchesse. Clélia ne pouvait presque plus se faire d'illusions. Elle avait de la haine pour Madame Sanseverina. Une nuit, Fabrice vint à penser un peu sérieusement à sa tante. Il fut étonné il eut peine à reconnaître son image. Le souvenir qu'il conservait d'elle avait totalement changé. Pour lui, à cette heure, elle avait 50 ans. « Grand Dieu !» s'écria-t-il avec enthousiasme. « Que je fus bien inspiré de ne pas lui dire que je l'aimais !» Il en était au point de ne presque plus pouvoir comprendre comment il l'avait trouvée si jolie. Sous ce rapport, la petite Marietta lui faisait une impression de changement moins sensible. C'est que jamais il ne s'était figuré que son âme fût de quelque chose dans l'amour pour la Marietta, tandis que souvent il avait cru que son âme tout entière appartenait à la duchesse. La duchesse d'A et la Marietta lui faisaient l'effet maintenant de deux jeunes colombes dont tout le charme serait dans la faiblesse et dans l'innocence. Tandis que l'image sublime de Clelia Conti, en s'emparant de toute son âme, allait jusqu'à lui donner de la terreur. Il sentait trop bien que l'éternel bonheur de sa vie allait le forcer de compter avec la fille du gouverneur, et qu'il était en son pouvoir de faire de lui le plus malheureux des hommes. Chaque jour, il craignait mortellement de voir se terminer tout à coup, par un caprice sans appel de sa volonté, cette sorte de vie singulière et délicieuse qu'il trouvait auprès d'elle. Toutefois, elle avait déjà rempli de félicité les deux premiers mois de sa prison. C'était le temps où, deux fois la semaine, le général Fabio Conti disait au prince « Je puis donner ma parole d'honneur à votre Altesse que le prisonnier del Dongo ne parle à âme qui vive et passe sa vie dans l'accablement du plus profond désespoir ou à dormir. » Clelia venait deux ou trois fois le jour voir ses oiseaux, quelquefois pour des instants. Si Fabrice ne l'eût pas tant aimé, il eût bien vu qu'il était aimé. Mais il avait des doutes mortels à cet égard. Clélia avait fait placer un piano dans la volière. Tout en frappant les touches, pour que le son de l'instrument pût rendre compte de sa présence et occupa les sentinelles qui se promenaient sous les fenêtres, elle répondait des yeux aux questions de Fabrice. Sur un seul sujet, elle ne faisait jamais de réponse. Et même dans les grandes occasions, prenait la fuite, et quelquefois disparaissait pour une journée entière. C'était lorsque les signes de Fabrice indiquaient des sentiments dont il était trop difficile de ne pas comprendre l'aveu. Elle était inexorable sur ce point. Ainsi, quoique étroitement resserré dans une assez petite cage, Fabrice avait une vie fort occupée. Elle était employée tout entière à chercher la solution de ce problème si important, même tel. Le résultat de milliers d'observations sans cesse renouvelées, mais aussi sans cesse mises en doute, était ceci. Tous ces gestes volontaires disent non. Mais ce qui est involontaire dans le mouvement de ses yeux semble avouer qu'elle prend de l'amitié pour moi. Clélia espérait bien ne jamais arriver à un aveu, et c'est pour éloigner ce péril qu'elle avait repoussé, avec une colère excessive, une prière que Fabrice lui avait adressée plusieurs fois. La misère des ressources employées par le pauvre prisonnier aurait dû, ce semble, inspirer à Clélia plus de pitié. Il voulait correspondre avec elle, au moyen de caractères qu'il traçait sur sa main avec un morceau de charbon dont il avait fait la précieuse découverte dans son poêle. Il aurait formé les mots lettre à lettre successivement. Cette invention eût doublé les moyens de conversation en ce qu'elle eût permis de dire des choses précises. Sa fenêtre était éloignée de celle de Clélia d'environ 25 pieds. Il eût été trop chanceux de se parler par-dessus la tête des sentinelles se promenant devant le palais du gouverneur. Fabrice doutait d'être aimé. S'il eût eu quelque expérience de l'amour, il ne lui fût pas resté de doute. Mais jamais femme n'avait occupé son cœur. Il n'avait, du reste, aucun soupçon d'un secret qui l'eût mis au désespoir s'il l'eût connu. Il était grandement question du mariage de Clelia Conti avec le marquis Crescenzi, l'homme le plus riche de la cour.